Alors, un autre invité à Point commun aujourd'hui. On reçoit Jérôme Bobin de Handicap International Canada. Jérôme, qui est un habitué des studios de Canal M. Handicap International est une organisation connue en particulier pour le combat qu'elle mène contre les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions et pour l'assistance aux personnes victimes de ces armes. Donc, elle travaille en fait sur le terrain là-bas. Et évidemment, on a une division au Canada avec nous, entre autres à Montréal. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Donc, l'histoire même de l'organisme, en fait, est liée à la question des mines antipersonnelles. C'est vraiment l'enjeu principal.
Oui, en fait, c'est notre origine, c'est notre berceau, j'ai envie de dire, vu que l'organisme est né au Cambodge, en fait, avec ces réfugiés cambodgiens qui fuyaient le régime des Khmers Rouges. Et il se trouve qu'en fait, les Khmers Rouges avaient disposé tout au long de leurs frontières un tapis de mines antipersonnelles. Et donc, l'organisme a été confronté à ces populations de personnes amputées à cause des mines antipersonnelles. Et puis, je vous dis ça, c'était il y a plus de 30 ans. Et il y a 30 ans, on ne savait pas tellement déjà comment bien identifier les personnes qui avaient besoin d'assistance et puis surtout comment les accompagner.
Tout à fait. Vous dites un tapis de mines antipersonnelles, c'est une image qui est, ma foi, effrayante et effroyable. Pour enlever ce tapis-là, comment on fait? C'est du déminage?
Voilà,
c'est le démineur comme on joue sur ordinateur, mais en beaucoup plus complexe.
Voilà, en vrai, et sans aucune chance de se tromper, en fait.
Tout à fait.
Oui, il y a des travaux très importants de déminage. En fait, Handicap International a commencé par assister les victimes, et puis très rapidement, on s'est rendu compte que si on voulait éviter d'autres victimes, il fallait aussi investir le champ du déminage humanitaire. Donc en effet, ça se fait avec des spécialistes, ça se fait avec beaucoup de minutie, ça se fait avec beaucoup de temps, finalement, parce que le meilleur déminage sera toujours celui qui est fait et contrôlé par un être humain. On a d'autres façons de déminer. On peut déminer grâce à des animaux, on peut déminer grâce à des engins. Mais au final, il faut toujours qu'il y ait un être humain qui aille vérifier que le travail est bien fait. Donc, c'est pour ça que le déminage prend à la fois beaucoup de temps et beaucoup d'argent.
Et est-ce que, on parlait de conflits qui ont eu lieu, entre autres, il y a une trentaine d'années. Est-ce que les mines, c'est encore utilisé dans les conflits actuels?
Malheureusement, oui, on a encore beaucoup de mines et autres engins explosifs qui sont utilisés au cours de la crise syrienne actuellement. Donc sur le territoire syrien, on en a au Yémen, on en a dans d'autres pays ou territoires un peu partout dans le monde finalement. Il n'y a pas que des armées régulières qui utilisent des mines antipersonnelles, il peut y avoir aussi des groupes armés et donc ceux-là sont difficilement contrôlables et ne respectent pas forcément les lois internationales.
Mis à part les mines, il y a évidemment d'autres sources, en fait, qui créent des situations de handicap, qui atteignent le corps des militaires, mais aussi des civils.
Des civils, et c'est tout le problème et l'enjeu pour Handicap International, c'est que de plus en plus, on voit dans les conflits les plus récents l'usage de bombardements, enfin l'arrivée de bombardements sur des zones civiles, des zones peuplées. Et finalement, il n'y a pas en effet, comme vous le dites, que les mines, il y a aussi toutes les armes explosives qui sont utilisées dans ces zones densément peuplées. Il y a aussi l'usage de petites armes, des armes typiques, des armes à feu par exemple. On pense en Libye, il y a quelques temps quand la Libye s'est libérée suite au régime de Kadhafi, mais les entrepôts d'armes aussi se sont ouverts. Donc du coup, on a eu une diffusion massive de tout un tas d'armes qui ne sont pas seulement qu'explosives, qui sont entre les mains de civils et qui causent de nombreuses blessures et des blessures qui peuvent entraîner des amputations et des handicaps permanents.
Comment est-ce que Handicap International intervient dans ces pays-là?
Alors, il y a différents niveaux. Il y a le premier niveau, ça va être l'éducation au risque, c'est-à-dire quand on est confronté aux populations qui vont elles-mêmes être confrontées à ces armes-là, c'est d'abord leur expliquer ce qu'elles vont découvrir et quel comportement elles vont devoir adopter vis-à-vis de ces armes. On l'a dit, il y a du déminage humanitaire quand on parle de mines antipersonnelles ou de bombes à sous-munitions, mais il y a aussi un volet qui est moins connu de notre activité, c'est la gestion des stocks. Aider les pays et les États concernés à mieux gérer leurs stocks, à mieux sécuriser leurs stocks, à mieux suivre l'évolution ou la date de péremption de certains armements, parce qu'il y a aussi des dates à respecter. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait aussi. Et puis l'accompagnement forcément des personnes qui ont été touchées par ça, pour les accompagner en réadaptation physique d'abord et puis en réinsertion socio-professionnelle ensuite.
On a abordé brièvement la crise en Syrie. Qu'en est-il justement de cette crise des migrants? Il y a certainement des personnes en situation de handicap parmi ceux qui prennent la route. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les réfugiés?
Alors, de toute façon, voilà, c'est les réfugiés. Il faut bien se remettre en tête, la crise principale, c'est la crise des réfugiés qui fuient la Syrie. Alors, soit ils sont dans les pays avoisinants, soit ils vont plus loin, donc vers les pays européens ou même vers les pays d'Amérique du Nord. La migration n'est qu'une deuxième étape de ce problème-là. Il y a en effet des personnes en situation de handicap dans les réfugiés syriens. Alors, soit des personnes qui l'étaient déjà, qui étaient en Syrie. La Syrie n'était pas spécialement un pays sous-développé. La Syrie était et toujours un pays finalement plutôt développé avec sa population de personnes en situation de handicap qui, à l'époque, avaient des services, mais qui maintenant, dû à la crise, dû au statut de réfugiés, n'ont plus accès à ces services. Donc, il ne faut pas oublier cette partie de la population. Et puis, tous les autres, comme je vous l'ai dit, victimes des bombardements, qui se retrouvent blessés et à qui il faut apporter un suivi de réadaptation fonctionnelle assez rapide pour ne pas que ça se transforme après en handicap permanent.
Tout à fait. Est-ce que Handicap International est présent dans les camps de réfugiés à ce niveau-là?
Tout à fait. Au Liban, en Jordanie, en Irak aussi. Irak, c'est un double problème parce qu'il y a des déplacés internes de l'Irak et puis il y a des réfugiés syriens qui viennent de Syrie. Donc, c'est un peu plus compliqué que le reste. Mais on est là, en effet, et on est en train aussi de mettre en œuvre, de réfléchir à un projet en Europe, aux frontières de l'Europe, pour accueillir les migrants aussi et pour les aider. Mais ce n'est pas naturel pour une organisation comme nous. On est plutôt habitué à travailler dans les pays dits du Sud ou des pays en développement, mais plus en Europe. Ça fait des années qu'on ne travaillait plus en Europe.
Oui, c'est ça. En Europe, ce sera plus, et même au Canada, ce sera plus de la coordination à ce moment-là, plutôt que du travail sur le terrain comme tel.
Oui, ou l'appui d'expertise, de l'apport d'expertise, notamment pour l'identification des besoins spécifiques des personnes, soit à mobilité réduite, soit des personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants. Il y a toute une population qui a des besoins spécifiques.
Tout à fait. Donc, on ne parle pas seulement d'amputation, mais vraiment de mobilité réduite. Les femmes enceintes, comme vous le dites, c'est un exemple qu'on oublie parfois, mais qui rentre en ligne de compte. Comment est-ce qu'on peut aider Handicap International si on veut vous soutenir dans vos actions?
Comme toutes les organisations humanitaires, on s'appuie sur la générosité du public. Donc, il y a forcément une possibilité de faire des dons. Il y a aussi, faut pas sous-estimer l'impact des réseaux sociaux et partager les messages, partager un peu les discours et les points de vigilance que l'on apporte vis-à-vis du public. Et puis, à suivre nos actualités, c'est une façon d'accompagner la démarche.
Oui. En terminant, on vient tout juste de changer de gouvernement. Donc, c'est le nouveau gouvernement libéral qui arrive, qui avait fait comme tout de même, qui avait courtisé les vétérans durant la campagne. Est-ce que vous avez des attentes envers ce gouvernement-là par rapport aux situations internationales?
On a toujours des attentes vis-à-vis de tous les gouvernements, quels qu'ils soient. Concernant les libéraux, il faut se rappeler que les libéraux ont porté le traité d'interdiction des mines antipersonnelles, ce qu'on appelle le traité d'Ottawa de 1997. Mm-hmm. Donc, ils ont démontré un intérêt particulier sur ce sujet-là. Donc, j'espère qu'ils vont continuer à avoir cet intérêt-là. Les annonces de dialogue, de retour du dialogue avec nos partenaires, avec peut-être les États qui sont moins nos partenaires, mais avec qui il faut discuter, c'est très important dans l'humanitaire parce qu'on a besoin que tous les États du monde soient derrière les actions humanitaires. Les clivages sont très gênants dans le déploiement des actions humanitaires. Donc il faut aller vers le dialogue et puis le renfort des investissements consacrés à la coopération, à l'aide humanitaire. C'est très important parce que malheureusement, on voit que les crises humanitaires ne sont pas encore en train de cesser.
Tout à fait. Et on sait que qu'il y a, entre autres, si on revient aux mines antipersonnelles, entre autres dans 90 pays, donc c'est encore très présent. C'était quelque chose qui a émergé dans un rapport récemment de Washington.
Oui, ça évolue. Les chiffres ont un peu baissé et c'est tant mieux, mais c'est encore très présent dans de nombreux pays à travers la planète.
Jérôme Bobin, vous travaillez pour Handicap International Canada à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, Maxime.